Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europy.
Stawrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Juliette Rangeval.
Bonjour, ce dimanche, Carrefour de l'Europe est à Istanbul à l'occasion du 11e séminaire de l'Institut du Bosphore, une émission réalisée par Julien Boileau. Blocage, petite phrase, l'Union européenne et la Turquie entretiennent des relations difficiles alors que la France s'apprête à prendre la présidence de l'Union européenne au 1er janvier et que l'Allemagne tourne la page Angela Merkel. Comment refonder la relation avec la Turquie sur une scène mondiale qui évolue rapidement, marquée par le débat sur l'autonomie stratégique de l'Europe? La Turquie, dont le processus d'adhésion avec l'Union européenne est au point mort, la Turquie constitue-t-elle une menace ou est-elle un voisin incontournable pour les Européens? Avec autour de cette table, pour en parler, le président de l'Institut du Bosphore, Bahadir Kaleaj. Bonjour.
Bonjour.
Joachim Bitterlich, ancien ambassadeur, ancien conseiller du chancelier Helmut Kohl. Bonjour.
Bonjour, madame.
Bartchin Yinanch, vous êtes journaliste indépendante, chroniqueuse. Bonjour.
Bonjour.
Et Didier Villon, vous êtes directeur adjoint de l'IRIS et auteur de La Turquie, un partenaire incontournable. C'est publié aux éditions Erol. La relation est bloquée aujourd'hui entre l'Union européenne et la Turquie. On parle parfois même de relations moribondes, souvent résumées au dossier migratoire côté européen. Bartchin Yinanch, j'ai envie de vous demander comment ça va entre les Européens et les Turcs aujourd'hui, après des mois de pandémie. Est-ce que vous partagez, vous, ce constat très sévère?
Ben, on a l'impression que ça bouge pas, hein, et on a l'impression que que les deux côtés sont en fait contents de cette situation. Mais je pense que la société civile turque, et bien que elle n'a pas des grands espoirs, je pense que la société civile turque reste toujours enthousiaste par une perspective vers l'Europe.
Didier Billon, peut-être un mot sur ce qui est sans doute un facteur aggravant de ces relations bloquées entre l'Union européenne et la Turquie, les relations bilatérales entre Paris et Ankara qui sont mauvaises, hein, toujours aujourd'hui.
Elles sont moins mauvaises qu'il y a un an, mais l'année 2020 a effectivement été terrible parce qu'il y a eu accumulation des dossiers de contentieux entre les deux pays. Et quand vous évoquiez précédemment la relation entre la Turquie et l'Union européenne, moi, j'essaie toujours de souligner qu'en réalité, l'Union européenne n'est pas unifiée quant à son rapport à la Turquie. Ainsi, par exemple, nous avons constaté en 2020 que le président Macron, à plusieurs reprises, a tenté de faire voter des sanctions à l'encontre de la Turquie, notamment à propos des tensions qui s'étaient cristallisées en Méditerranée orientale. Et il faut admettre que la chancelière Merkel, pour sa part, avait choisi une autre voie alors qu'elle présidait le Conseil européen. Et donc, elle a tenté, au contraire, de jouer la carte de la négociation. Elle a envoyé à plusieurs reprises son ministre des Affaires étrangères à Athènes, puis à Ankara. Et donc, elle a tenté de mettre en œuvre une politique de médiation. Donc, nous voyons que les Européens ne sont pas unifiés, ce qui rend encore plus compliqué la réalité de notre relation avec ce grand partenaire qui est la Turquie.
Et justement, le fait que l'Allemagne, aujourd'hui, soit en train de choisir son gouvernement, de négocier une coalition au pouvoir, Bahadir Kaleaj, est-ce que ça, c'est pas une mauvaise nouvelle pour le président turc Recep Tayyip Erdogan de perdre cet allié qui était cet allié objectif qui était Angela Merkel, même s'ils avaient beaucoup de points de désaccord?
Bon, je ne sais pas sa perception, évidemment, des changements en cours, mais quand la Turquie est devenue officiellement candidat à l'adhésion à l'Union européenne, c'était à l'époque où il y avait un gouvernement social-démocrate et écologiste à Berlin. Donc, les politiques changent, les temps changent, mais nous avons l'expérience de l'histoire en nous-mêmes. Il y a environ 10 ans, la Turquie était un pays, selon les rapports officiels de la Commission européenne, était un pays qui remplissait les critères démocratiques de l'Europe, était un pays qui avait déjà transposé plus de 50% de l'acquis communautaire, donc des règlements, les lois européennes à son ordre juridique interne, était un pays qui était presque à 100% en convergence en matière de la politique étrangère commune de l'Union européenne, y compris la politique chypriote. Donc, ce qui était possible il y a 10 ans peut encore être possible dans 10 ans, dans 5 ans. Il faut voir la photographie, mais il faut aussi voir le film qui est en cours. L'Europe change, il y aura une conférence sur l'avenir de l'Europe. Peut-être qu'il y aura une intégration différenciée, mieux organisée en Europe, avec des différents statuts et axes d'intégration. Et à cause de, ou grâce, ça dépend du point de vue au Brexit, et aussi plusieurs autres pays comme la Suisse, la Norvège, les Balkans. Donc la Turquie peut trouver une place dans cette Europe à géométrie variable. Mais d'ici là, il faut se focaliser sur les axes de progrès et l'union douanière, les relations commerciales, la transition écologique, numérique.
On va en parler, oui, tout à fait.
Tout cela, c'est dans l'intérêt des citoyens européens, y compris les Turcs.
Joachim Beterlich, comment voyez-vous la dynamique qui est en train de se mettre en place dans cette Europe qui change aujourd'hui, vous qui êtes allemand, comment voyez-vous le nouveau pouvoir allemand interagir avec la Turquie demain? Ce sera la stabilité, quelle que soit la coalition qui arrive au pouvoir?
Bien, attendant la fin des négociations de coalition, ils viennent de terminer cet après-midi la première étape, ce qu'on appelle l'étape des sondages. Ça a terminé avec un accord cet après-midi. Ils recommandent à leurs trois parties l'entrée en négociation formelle. J'ai lu rapidement l'essentiel du papier sur lequel ils sont mis d'accord. J'ai pas vu de traces sur la Turquie. Ça m'étonne pas, parce que c'est un des sujets, je dirais, les plus complexes à traiter. Et n'oubliez pas, il y a 8 jours, il y a eu le sommet de l'Union européenne avec l'Ouest des Balkans, où si des pays qui souhaitent l'adhésion à l'Union européenne, comme la Turquie. Et dans ce cadre, l'Union européenne a rappelé une chose. C'est-à-dire ce qui a été presque oublié depuis ce qu'on appelle les critères de Copenhague de 1993, c'est est-ce que l'Union européenne, est-ce qu'elle est prête, disposée, apte, capable d'accepter de nouveaux États membres, je dirais, sans s'adaptation intérieure. Et hélas, là, il y a ce que j'appelle des problèmes devant l'Union européenne. La Turquie, ce n'est pas un petit pays avec 1 million d'habitants. La Turquie sera, s'il y a adhésion, sera le plus grand pays de l'Union européenne en nombre d'habitants. D'où la question qui se pose, non seulement pour Berlin, mais aussi pour d'autres, quelles seront les conséquences d'une telle adhésion à ce moment-là? Et n'oubliez pas, il y a eu une phase, je dirais, positive sur la Turquie au début de ce siècle, au début de la dernière décennie, mais depuis lors, les relations se sont dégradées. Je dirais, en quelque sorte, il faut être objectif à cet égard. Il est évident que les différents États ont différents vues sur une adhésion éventuelle de la Turquie. Je trouve que c'est normal dans une communauté à 27 membres aujourd'hui, parce que, n'oubliez pas, il faut passer par les parlements nationaux de 27 États membres pour pouvoir ratifier et pour pouvoir dire oui à l'entrée.
Et c'est l'une des questions qui se pose toujours et encore, un des principaux points d'achoppement entre la Turquie et l'Union européenne, c'est la question des principes, on peut l'appeler la question des valeurs peut-être. On est alors sur des références plus culturelles, religieuses. Je vous propose de nous arrêter un instant sur cette question à travers l'œil européen de Franceline Beretti.
Les négociations sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne ont été ouvertes en 2005, il y a 16 ans. Depuis trop longtemps? Parce qu'aujourd'hui, l'envie n'y est plus. L'Europe ne veut plus de la Turquie et la Turquie ne veut plus de l'Europe. Le journal The Economist rapporte la blague qui circule parmi les experts du dossier à Bruxelles.
We pretend to negotiate and...
On fait semblant de négocier, ils font semblant de faire des réformes.
They pretend to reform.
À un moment, l'Europe disait qu'elle ne voulait pas de la Turquie d'Erdogan, autoritaire, despotique, qui réprime l'opposition, la presse, les minorités, avec une justice politisée. Un État loin des valeurs défendues par les institutions. Mais une autre Turquie, plus libérale, plus démocratique. Un jour, pourquoi pas ? On en est loin, c'est vrai. Les affaires semblent s'enchaîner pour nous le rappeler. Affaires qui font grand bruit avant de s'éteindre rapidement. Prenez la dernière séquence d'indignation. La visite officielle en Turquie de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et du président du Conseil, Charles Michel. Ce que l'on a dramatiquement appelé le Sofagate. Bon, les deux représentants de l'Union européenne sont reçus par le chef de l'État, Recep Tayyip Erdogan. Il n'y a que deux fauteuils et c'est von der Leyen, la femme donc, qui est reléguée au canapé et reste à l'écart des discussions.
La présidente, clairement, a été surprise. D'ailleurs, on le voit dans la vidéo.
Scandale ! La Turquie méprise les droits des femmes et piétine nos valeurs. Sauf qu'après enquête, on apprend que le service du protocole de Charles Michel a accepté la disposition et que ce service rivalise avec celui de la présidente de la Commission. Les conservateurs turcs n'avaient qu'à se glisser dans les failles de l'Europe. Sur les droits des femmes, la Turquie est à peine moins libérale que certains pays européens. En mai 2020, par exemple, le Parlement hongrois n'a pas ratifié le traité contre la violence faite aux femmes, la fameuse Convention d'Istanbul, dont ne veut pas entendre parler la Turquie, malgré son nom. Les Polonaises, elles, ont échappé de peu à l'interdiction totale de l'avortement en 2016, grâce à une mobilisation en béton et en musique. Puis elles ont dû repartir au combat. Il y a un an, par exemple, quand le tribunal constitutionnel interdit l'avortement, même en cas de malformation grave du fœtus. Puis, à nouveau, en janvier dernier.
Partie du tribunal constitutionnel, ces manifestants pro-avortement marchent vers le siège du parti ultra-catholique Droit et Justice, le PIS au pouvoir. Objectif, montrer leur colère au gouvernement ultra-conservateur. Les restrictions considérables au droit à l'avortement sont entrées en vigueur mercredi soir. Mais pour les manifestants, le combat n'est pas terminé.
Depuis Varsovie comme depuis Budapest, les droits des femmes, la liberté de la presse, la justice reculent. Alors ce discours des valeurs qui nous opposeraient aux Turcs ne tient plus. Le chercheur en sciences politiques Yasha Munk dresse par exemple un bilan sans appel du régime de Viktor Orban.
La plupart des observateurs indépendants et des chercheurs estiment que les élections en Hongrie étaient des élections globalement libres, mais pas vraiment équitables. Autrement dit, après être passé par une phase de démocratie illibérale, de démocratie d'extrême droite, maintenant je ne dirais plus que la Hongrie est une démocratie. Quand on commence à s'attaquer aux institutions indépendantes, à se débarrasser des contre-pouvoirs, on finit par s'enfoncer dans la dictature.
Une dictature. D'autres chercheurs préféreraient le terme de démocratie illibérale, de régime autoritaire. Mais le constat, au fond, est le même. La Hongrie et la Pologne s'éloignent du modèle européen. Si les relations avec notre voisin turc sont tellement compliquées, ce n'est pas une question de valeur. C'est que la Turquie est un excellent révélateur des divisions, des contradictions et des faiblesses des pays européens.
Didier Billion, vous êtes d'accord ? L'Europe doit balayer devant sa porte quand on parle de valeurs ?
Oui, moi c'est un terme que j'utilise avec beaucoup de circonspection. Je préfère que nous parlions de principes démocratiques, notamment l'état de droit, la liberté de la presse, la liberté de la recherche, la liberté d'association, etc. Les valeurs indiquées dans le reportage font plutôt appel à un système de référence culturelle. Et là, nous sommes sur un terrain très dangereux, parce que alors nous pouvons considérer, ou certains Européens peuvent considérer, qu'un pays qui est peuplé de 83 millions d'habitants, dont je crois que 99% sont musulmans, n'a pas sa place au sein de l'Union européenne. Ce n'est pas ma conception de l'Union européenne, personnellement. J'ai une conception totalement, uniquement politique. C'est-à-dire, c'est une volonté politique de construire ensemble un système de coopération nécessaire pour avoir notre place au sein de cette mondialisation tentaculaire. Et donc, je ne crois pas que les aspects culturels, et pour parler clair entre nous, les aspects confessionnels, religieux, doivent rentrer en ligne de compte. Alors, bien évidemment, une fois que j'ai dit cela, je comprends parfaitement que c'est un défi politique qui nous est posée à nous, Européens. Je suis citoyen français, je suis européen, et je vois avec quelque inquiétude, pour ne pas dire plus, toutes les crispations identitaires populistes qui se manifestent à travers quasiment tous les pays de l'Union européenne, avec des nuances, bien évidemment, selon les histoires propres de chaque État, mais qui, pour ma part, sont totalement régressives. Et donc, je pense qu'il faut aussi que dans le dialogue avec nos partenaires turcs, nous soyons sur cet aspect des choses le plus clair possible. Parce que souvent, j'entends des responsables turcs qui expliquent que l'Union européenne est un club chrétien. Je pense que là, il y a un danger. Il faut mettre les choses bien au point pour désamorcer les faux débats et pour s'attaquer aux débats de fond. Et les principes politiques, la démocratie, l'état de droit sont des problèmes de fond qu'il nous faut aborder calmement, sereinement, mais jusqu'au bout.
Bartin Yilanç, comment est-ce que vous percevez, vous, ces questionnements sur l'identité européenne ? La Turquie n'a pas été invitée à la conférence sur l'avenir de l'Europe qui est en train de se tenir en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez ?
Oui, je me sens même insultée. Parce que quand il y avait une même exercice il y a une dizaine d'années, la Turquie était invitée. Et aujourd'hui, on peut dire que l'Europe a un problème avec le gouvernement turc, avec le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan, mais au moins les représentants de la société civile auraient pu être invités, parce que je ne peux pas imaginer une Europe sans Turquie, qu'elle soit membre de l'Union européenne ou non membre de l'Union européenne, parce que regardons par exemple le mouvement des femmes. Même la Turquie, quand elle n'est pas au sein de l'Union européenne, elle influence les événements en Europe. Quand la Turquie a décidé de sortir du Convention d'Istanbul, je pense que le Conseil européen s'est rendu compte de l'importance de cette convention et de dire, attention, il faut qu'on fasse quelque chose et il faut qu'on tourne vers les Polonais, vers les Hongrois, pour qu'eux aussi ne prennent pas cette voie. Donc même en restant dehors, on influence l'Europe. Moi, personnellement, je ne pense pas que je sois moins équipée, moins qualifiée, ni l'Académie turque, ni les intellectuels turcs, de contribuer à l'Europe. On ne regarde pas à l'Europe juste d'un perspective turque, on le regarde comme c'est une famille. Mais il faut que je dise que quand même on perçoit une approche orientaliste de la part de l'Europe qui disent voilà, les Turcs c'est des musulmans et là les musulmans ils ne peuvent pas être démocratiques, tandis que avec la Pologne et la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, je pense que on savait déjà que c'était pas des démocraties parfaites, mais quand même on n'a pas attendu qu'ils consolident leur démocratie, on leur a ouvert la porte. Tandis que pour la Turquie, on dit « deviens une démocratie parfaite » et après « sont dans notre porte », tandis que ça n'a pas été le cas avec les autres pays.
Oui, on sent beaucoup d'amertume, de ressentiment de la part de toutes les personnalités turques que j'ai pu rencontrer ici à Istanbul, hein, sur ce qu'ils dénoncent comme le double standard européen. Joachim Bitterlich, j'ai envie de parler avec vous un petit peu de la Pologne, parce que là aussi on est sur la question des principes, avec l'affaire du tribunal constitutionnel polonais qui affirme la primauté du droit polonais sur le droit européen. C'est une décision qui est souvent vue comme une remise en cause de l'un des fondements de l'Union européenne.
Moi, je pense qu'il s'agit d'une confusion assez profonde à cet égard, pour une raison toute simple. Que dit la primauté du droit européen ? J'ai dit malheureusement interprétée de manière assez excessive par la Cour européenne de justice. La décision de Varsovie n'est pas unique en Europe. Il y avait avant celle de Karlsruhe, de la Cour constitutionnelle allemande. Il y avait avant, je dirais, une jurisprudence presque établie à Paris par le Conseil constitutionnel et par le Conseil d'État. Attention. Pour moi, il faudrait d'urgence se mettre ensemble pour clarifier d'abord ce sujet avant de jeter une grosse pierre en direction de Varsovie. Or, si je permets de revenir à l'aspect de l'élargissement, vu la situation et surtout vu les risques d'une ratification ratée d'une adhésion de la Turquie, parce que passer par 27 parlements sous les conditions que nos amis viennent d'indiquer, il y a un risque assez fort que l'électeur ou les parlements nationaux établissent une certaine confusion à l'égard de la Turquie.
Très probablement, la réponse serait non.
Voilà, voilà le risque. Voilà le risque en France.
Pour le moment, c'est mais, trop tôt de parler de l'adhésion.
Pardonnez-moi, il sera pire un accord d'adhésion non ratifié par un certain nombre, je l'ai dit, un certain nombre de parlements nationaux en Europe. Ce serait pire pour moi, pour la Turquie.
Oui, mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. Mais est-ce que sur des pas qui paraissent moindres que l'adhésion, par exemple sur la négociation des droits de douane, sur les accords douaniers. Aujourd'hui, on voit que ça bloque, que les Turcs sont très ont très envie qu'on puisse avancer sur ce dossier-là, et ça bloque malgré tout.
Je comprends tout à fait la Turquie, et je suis le premier à défendre l'idée d'une revue de l'union douanière entre la Turquie et l'Union européenne, comme premier pas, mais comme une sorte de roadmap vers l'adhésion future. Oui, je suis entièrement d'accord. Mais de nouveau là, l'Union européenne opère de manière unanime à l'égard de tout élargissement, d'où ce que j'appelle la confusion avec ce qui se passe dans l'Est de la Méditerranée, ce qui se passe autour de Chypre. La politique de la Turquie a été, disons, objectivement agressive. La Turquie ne voulait pas se soumettre, en réalité, à la médiation des Allemands. Les Allemands l'ont essayé, les Allemands n'ont pas osé, finalement, de peur de la réaction turque jusqu'au bout. Parce qu'une médiation veut dire qu'à la fin, vous acceptez aussi un arbitre.
Pour moi, c'est le processus qui est très important. Parce que c'est pendant le processus que la Turquie faisait des réformes. Et c'est le processus de l'adhésion qui représente le soft power de l'Union européenne. Cet pouvoir de transformer un pays pour consolider sa démocratie. C'est pour ça que j'ai dit, on n'est pas... pour l'adhésion, ça va être dans je ne sais pas combien de temps. Donc pour moi, c'est le processus, parce que, par exemple, il y a les gens qui veulent dire oui, la Turquie est partie de la Convention d'Istanbul, les droits de femmes, etc. Mais aujourd'hui, en Turquie, il y a un mouvement très fort des femmes. Pourquoi ? Parce que justement, là où on continuait les pourparlers d'adhésion, la Turquie était encouragée par cette perspective. Donc, elle avait fait des grandes réformes et les femmes avaient pris plus de confiance. Donc, quand on a ce processus, justement, je pense qu'on a ça motive. C'est une motivation de changement. Tandis que maintenant, comme il n'y a pas ces pourparlers, ce processus, il n'y a pas cette motivation.
Un mot, Didier Billon, sur le
premier bilan que nous pouvons tirer de cet échange, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans la plus mauvaise des situations, en réalité. Il y a l'illusion de la poursuite des négociations, ce qui, en réalité, ne leurre personne. Je crois que le dernier chapitre de négociation a été ouvert de mémoire en 2016, donc ça fait 5 ans. Et puis, par ailleurs, on sait bien que la Turquie reste une question posée à l'Union européenne, mais nous n'osons pas véritablement initier une série de mesures et de décisions. Et moi, je suis d'accord que le processus est le plus important. C'est-à-dire que c'est le mouvement même qu'il nous faut reprendre sur des bases radicalement différentes. On déclinera plus tard.
On va parler justement peut-être de ce qui va permettre ces rapprochements. Il y a une cause que la Turquie, l'Union européenne, le monde entier ont en commun, c'est le réchauffement climatique, c'est l'environnement. On a vu que la Turquie avait signé il y a peu de jours les accords de Paris. Je vous propose d'aller sur les rives de la mer de Marmara, qui ont vu débarquer à l'été dernier, au printemps dernier, sur les plages, d'épaisses couches de mousse visqueuse. On appelle ça le mucilage, moins joliment la morve de mer. C'est un phénomène naturel, mais qui a été amplifié par la pollution, l'activité humaine. Et si rien n'est fait, eh bien le phénomène va se reproduire en s'aggravant. C'est un reportage à Istanbul d'Anne Andlauer.
Dans quelques heures, si le temps est propice, Cem Gündoğdu aura quitté le port de Rumeli Feneri, tout au nord d'Istanbul, aux commandes de son grand bateau, un Senneur vert et blanc. Comme son père avant lui, Jem pratique depuis 26 ans cette vieille technique de pêche par encerclement du poisson. Pendant un mois et demi, il remontera du luffer des eaux de la mer Noire. Le luffer, qu'on appelle tassergal en français, est un poisson des mers chaudes. Il ressemble au loup de mer ou au bar. En Turquie, son nom est surtout associé au détroit du Bosphore et à la mer de Marmara. Mais ces dernières années, Jem n'y jette presque plus ses filets.
Autrefois, il y avait des coraux en mer de Marmara et de grosses moules. C'était tout un espace de vie pour les poissons. Ils s'égayaient dans les fonds marins. Ils y trouvaient de la nourriture en abondance. Désormais, les poissons passent directement de la mer Noire au détroit des Dardanelles qui ouvre sur la mer Égée. Pourquoi s'attarderait-il en mer de Marmara? Ils n'y trouvent que de la saleté. Ça vous dirait, vous, de rester dans la saleté, de vivre dans un cimetière? Non, vous chercheriez un meilleur endroit. Le fond de cette mer est saccagé, couvert de résidus visqueux. Moi, c'est ce que j'appelle une mer morte.
Les résidus visqueux dont parle ce marin au visage poupin, ce sont les mucilages. Parfois surnommés morphes de mer, ils apparaissent quand des organismes végétaux vivant en suspension dans l'eau gonflent jusqu'à former une sorte de mucus jaunâtre. Les mucilages menacent l'écosystème, notamment en bloquant la lumière du soleil et en privant la faune et la flore sous-marine d'oxygène. Jem les croisait depuis 15 ans de manière sporadique, mais à l'été 2021, c'est toute la côte sud d'Istanbul qui s'en est retrouvée couverte. Le principal coupable est connu, une pollution intense, celle due aux eaux usées de la région de Marmara, de ses 25 millions d'habitants et de ses zones industrielles, qui se déversent dans la mer à la suite d'opérations d'épuration peu ou pas efficaces, voire inexistantes. Nihan Temizattaş, chargée de campagne pour Greenpeace Méditerranée.
La mer de Marmara ne peut tout simplement plus digérer les eaux ménagères, urbaines, industrielles qu'on y déverse depuis 32 ans. Normalement, ce qu'on appelle le déversement en eau profonde requiert l'expertise d'ingénieurs, tenant compte des caractéristiques de la mer en question et de la meilleure façon d'épurer ces eaux usées en amont pour les diluer ensuite dans la mer. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on fait depuis 32 ans en mer de Marmara. Ce qu'on fait, c'est utiliser ces courants de fond comme une sorte de tapis roulant dans l'espoir d'acheminer les eaux usées jusqu'à la mer Noire. Or, seuls 10% de ces eaux usées arrivent effectivement en mer Noire. Et même si on arrivait à y acheminer la totalité des eaux usées, ce n'est pas une solution. Ça n'a pas de sens de préserver une mer et de sacrifier l'autre.
Dans l'urgence de l'été, les autorités turques ont adopté un plan d'action pour la mer de Marmara. Aspirer le mucilage qui s'accumulait en surface. Mais dans les profondeurs marines, la vie continue d'étouffer. Et sur les côtes d'Istanbul, le mucilage reviendra bientôt, c'est une certitude. Nihan Temizattaş.
La solution que nous défendons, c'est que les installations qui produisent ces eaux usées se chargent elles-mêmes sur place de les épurer. Ou alors qu'elles soient épurées en utilisant d'autres méthodes chimiques, mais sans les mélanger aux eaux usées d'autres installations. Ensuite, on pourrait réutiliser ces eaux traitées pour d'autres activités, par exemple l'agriculture. Il faut d'urgence arrêter de considérer la mer de Marmara comme une fosse septique, comme un entrepôt de déchets qu'on pourrait salir et rendre malade sans crainte des conséquences.
Jem, le pêcheur, lui, est en colère.
Istanbul grandit sans mesure, s'urbanise sans mesure. Certaines usines rejettent leurs eaux usées dans les rivières, dans l'illégalité et l'indifférence totale. Nous, pêcheurs, quand on déverse quoi que ce soit dans la mer, on nous tombe aussitôt dessus et on nous sanctionne. On est hyper contrôlés. Pourquoi ne fait-on rien contre ceux qui rendent les rivières toutes rouges, toutes vertes, violettes? Où vont ces eaux? Dans la mer? Directement dans la mer? La mer Noire, elle, est grande, elle tient encore le coup. Mais la mer de Marmara, elle, est toute petite. Pas étonnant qu'elle vomisse toute cette pollution.
Si rien n'est fait, Jem n'est pas sûr de pouvoir transmettre son métier à ses enfants et petits-enfants.
Nos aînés disaient, là-bas, il y a du chinchard, là, du luffer, là, de l'anchois. Ils se fient à leur expérience, jeter leur filet et pêcher. Mais nous, on y va et on ne trouve rien. Ce n'est plus la même mer. Bientôt, on n'appellera même plus ça une mer. Là, c'est la mer de Marmara qui crie au secours. Et dans moins de 50 ans, si ça continue comme ça, la mer Noire subira la même chose. Surtout si on continue d'urbaniser ses côtes. Par exemple, on a construit un aéroport dans le nord d'Istanbul. Je ne dis pas qu'il ne faut rien construire, mais si on construit, alors il faut prévoir comment gérer toute la pollution qu'on crée.
Autre cauchemar en perspective pour les défenseurs de la mer de Marmara, le projet Canal Istanbul. Les autorités turques veulent creuser un second détroit entre la mer Noire et la mer de Marmara Et sur les rives de ce canal, une ville nouvelle d'un demi-million d'habitants au bas mot. Un projet fou qui, s'il voit le jour, rendrait, selon ses détracteurs, Istanbul invivable, sur terre comme sous la mer.
Est-ce que cette prise de conscience des questions environnementales, est-ce que cette prise de conscience, ça va d'abord rassurer les investisseurs, parce que aujourd'hui, les investisseurs européens ne veulent pas mettre leur argent dans des projets qui pourraient être, ou veulent moins mettre leur argent dans des projets qui pourraient être nuisibles à l'environnement. Est-ce que ça fait apparaître une diplomatie de l'environnement, Didier Billon?
Je n'y crois guère pour ma part, malheureusement. Je crois qu'il faut savoir là aussi balayer devant sa propre porte et au sein de l'Union européenne, en France tout particulièrement, j'écoutais ce reportage sur les désastres dans la mer de Marmara au cours de l'été dernier, nous avons en Bretagne la question des algues vertes. Bon, évidemment, comparaison n'est pas raison, mais ce que je constate, et on pourrait multiplier les exemples dans divers pays, c'est qu'il y a une sorte de choc, de contradiction entre la prise de conscience environnementale et écologique, qui est positive, bien évidemment, et la dure réalité des lois économiques. Et c'est un choc constant. J'y rajouterai un deuxième choc. C'est que la lutte pour les questions environnementales, elle s'inscrit sur le long terme, sans perdre trop de temps néanmoins. Et puis nos responsables politiques, quels qu'ils soient, raisonnent sur le très court terme. Donc on a deux contradictions majeures. C'est pourquoi le terme de diplomatie environnementale, c'est une jolie expression, c'est séduisant. Mais par essence, par définition, la diplomatie, elle s'inscrit sur le long terme, toujours. On ne peut jamais avoir de résultats immédiats, sauf en cas de crise avérée. Et donc il ne faut pas se gargariser de mots. Conscience, prise de conscience, tant mieux, trois fois tant mieux. Pour autant, il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de miracle, je suis peut-être un rabat-joie, mais c'est la dure réalité des faits. Et on voit bien les énormes difficultés que nous avons collectivement à appliquer les décisions de la COP de Paris.
On va élargir un peu la focale parce que la Turquie et l'Union européenne ne sont pas seules au monde et que l'Union européenne s'interroge désormais sur les contours de sa relation transatlantique. Est-ce que c'est l'Europe qui s'interroge ou est-ce que c'est seulement la France, Joachim Beterlich?
Je pense, nous, non seulement la France, mais aussi les États membres de l'Union européenne ont reçu ce que j'appelle un appel très clair. C'est le réveil qui a sonné. En quelque sorte, Européens, réveillez-vous, s'il vous plaît. Les États-Unis d'aujourd'hui, mais déjà depuis Obama, voient le monde et voient leurs responsabilités de manière différente que dans le passé. Il reste ce que j'appelle l'ultime protecteur de l'Europe, oui, certes, mais leur message est assez clair. Chers Européens, occupez-vous, s'il vous plaît, de votre environnement. Et lorsque je vois ce que j'appelle la demi-lune qui entoure à moitié l'Europe, à l'Est, de la Russie via l'Ukraine, la Turquie, le Moyen-Orient et le nord de l'Afrique, il y a 20 ans, nous vivions dans l'illusion que nous étions entourés par des amis et partenaires. Aujourd'hui, c'est ce que j'appelle c'est une instabilité assez progressée.
Vous mettez la Turquie dans cette zone d'instabilité?
Oui, je dois la mettre dans l'instabilité, pas dans un sens, je dirais, négatif, mais c'est la réalité. Je dois voir une situation d'un pays dans sa réalité. La Turquie, quelque part, depuis un certain nombre d'années, pose plus de problèmes à l'Union européenne qu'avant. Je sais que dans les années 90... Nous sommes pleins de l'instabilité du système politique turc, oui, certes.
Aujourd'hui, il est stable.
Nous avons pensé, au début de ce siècle, la nouvelle stabilité turque. Ensuite, aussi, la politique étrangère de la Turquie a changé ces dernières années, depuis le départ des Américains des Moyen-Orient. D'où cette... Et je comprends la Turquie de vouloir devenir une force, je dirais, du moins régulatrice dans le Moyen-Orient. La Turquie se trouve en compétition active avec l'Arabie Saoudite, avec qui est un nouvel acteur, avec l'Iran. Avant, c'était en plus l'Égypte et en plus, n'oubliez pas, Israël.
Bartin Nienanç, comment est-ce que vous voyez le rôle de votre pays, de la Turquie, dans la région aujourd'hui, après, c'est vrai, 10 années compliquées?
Bah, écoutez, de temps en temps, on parle des ambitions turques ou des ambitions néo-ottomanes, etc., que la Turquie veut être une puissance régionale, etc. Mettons à côté ce que la Turquie veut, mais il y a des réalités. Dans la région, la Turquie vit dans un environnement hostile. Elle a des problèmes avec la Russie. Et l'Europe a des problèmes avec la Russie, par exemple. Et en Libye, par exemple, je pense que la Turquie est plutôt avec les pays européens contre la Russie. Après, il y a l'Iran, qui n'est pas très facile. Après, il y a la question de la Syrie. Et donc, on peut avoir des problèmes entre les alliés. On vient de le voir, hein, entre la France et les États-Unis. Hein. Mais moi, ce que je constate, et c'est pour ça que quand vous dites instabilité comme source d'instabilité, peut-être c'est là que je peux faire une objection, c'est que de temps en temps, en Europe, on catégorise la Turquie comme un ennemi. On le catégorise un peu comme une menace, mais comme la Russie ou la Chine.
C'est un partenaire difficile. Oui, ça oui. C'est pas un ennemi pour moi, la Turquie, pas du tout. Mais c'est un partenaire, je dirais, qui n'est pas facile. La Russie est un partenaire, à certains égards, mais qui n'est pas facile du tout. L'Ukraine est une situation qui est extrêmement difficile, oui. Le Moyen-Orient, la Turquie a des intérêts, je dirais, que j'accepte, qui sont même vitaux pour la Turquie, pour sa compréhension de l'État, de l'intégrité de l'État, même si elle va, pour moi, personnellement, trop loin. Mais ça, c'est la perception de chacun. Mais en politique, il faut toujours savoir quelle est la perception de l'autre. Et c'est pour ça, pour pas mal d'Européens, ils voient la Turquie comme un partenaire difficile. Comment faut-il juger, en réalité, la Turquie? Comment faut les prendre, les Turcs?
Je vais vous emmener encore un petit peu plus loin. Je vais vous emmener sur le continent africain parce qu'on voit que là aussi, la Turquie mène une stratégie d'influence. Recep Tayyip Erdogan se rend d'ailleurs ce dimanche jusqu'à mercredi en visite officielle en Angola, au Nigeria, au Togo, pour renforcer la relation sécuritaire avec les États du Golfe de Guinée. Il sera accompagné d'une délégation du SBB, qui est le chef d'orchestre de l'industrie militaire turque. Nous sommes en ligne avec Florence Maurice, qui est notre envoyée spéciale permanente à Nairobi et dans la Corne de l'Afrique. Florence, la présence turque sur le continent africain se fait de plus en plus visible.
S'il fallait choisir une seule image pour résumer la percée turque sur le continent africain, ce pourrait être cette imposante mosquée inaugurée cet été au Ghana, la deuxième plus grande mosquée d'Afrique de l'Ouest, financée par Ankara donc, et qui n'est autre qu'une réplique de la célèbre mosquée bleue d'Istanbul, reconnaissable à ses 4 gigantesques minarets. Tout un symbole. On pourrait également retenir un chiffre, 43, c'est le nombre d'ambassades turques sur le continent africain aujourd'hui. La dernière a été inaugurée en avril dernier à Lomé, au Togo. 43 donc contre 12 ambassades seulement en 2003, époque à laquelle Ankara a commencé à réorienter sa diplomatie, notamment vers l'Afrique, après que les portes de l'Union européenne se sont refermées pour elle. Depuis, les échanges commerciaux avec le continent n'ont cessé d'augmenter pour atteindre 25 milliards de dollars par an aujourd'hui. Une percée tout azimut. On peut citer la compagnie aérienne Turkish Airlines qui dessert aujourd'hui une 50aine de villes africaines, les séries turques qui font fureur au Maghreb, des constructions d'hôpitaux comme à Madagascar, un don de flotte d'autobus à Conakry en Guinée et puis des centres culturels, des universités, bref, une stratégie d'influence assez large finalement qui va du commerce au religieux en passant bien sûr par la défense.
Et l'épicentre de la présence turque sur le continent africain, Florence, ça reste l'Afrique de l'Est, de la Corne de l'Afrique.
Absolument. Et le cas de la Somalie est assez emblématique. En 2011, Ankara y mettait les pieds en fournissant une aide humanitaire au pays, qui était alors en proie à une famine. Et en 2017, 6 ans plus tard, Mogadiscio accueillait le plus grand camp d'entraînement militaire turc à l'étranger. Des centaines de soldats et formateurs turcs y sont stationnés, avec la promesse de renforcer l'armée somalienne, qui cherche à prendre le relais de la mission de l'Union africaine dans sa lutte contre les terroristes Shebab. Cette présence a permis en retour à des entreprises turques de remporter des marchés clés en Somalie, tels que la gestion de l'aéroport et l'exploitation du port de Mogadiscio. La Turquie, on le sait, fournit également des drones actuellement aux autorités éthiopiennes dans leur lutte contre les forces rebelles du Tigré. Des drones qui ont également été utilisés en Libye, où la Turquie a réussi à s'imposer comme un acteur majeur face à la Russie.
Oui, justement, Florence, la Turquie n'est pas le seul acteur à avoir une stratégie offensive en Afrique. On vient de citer la Russie. Quels sont les principaux atouts d'Ankara ?
Il y a d'ailleurs un point commun dans la stratégie africaine de ces deux pays, et c'est d'éviter de se poser en donneur de leçons, ce qui trouve un certain écho auprès des dirigeants sur le continent africain. Ensuite, la Turquie, bien sûr, n'a pas la force de frappe économique de la Chine, mais elle dispose, avec la religion musulmane, un atout de taille. L'Afrique compte environ 400 millions de musulmans et la Turquie s'appuie sur ses réseaux religieux pour étendre son influence. Plus récemment, Ankara également a misé sur sa bonne connaissance des milieux islamistes pour tenter de vendre, en quelque sorte, sa coopération sécuritaire à des pays africains aux prises avec des groupes djihadistes. Il faut dire aussi que le président Erdogan entretient des relations privilégiées avec certains dirigeants africains, comme le Sénégalais Macky Sall, ce qui a valu à la Turquie d'obtenir par exemple la gestion du nouvel aéroport de Dakar, même si de ce point de vue, Ankara a essuyé des revers récemment avec la chute d'Alpha Condé en Guinée, dont le président turc était très proche, ainsi que la chute au Soudan en 2019 d'Omar El-Béchir, qui était l'un de ses principaux relais africains.
Florence, est-ce pour compenser ces revers que récemment la Turquie a cherché à renforcer ses liens au Sahel ?
Pour le moment, Ankara développe surtout des liens commerciaux et apporte de l'aide au développement au Sahel. Et la Turquie reste un petit acteur comparé à l'Union européenne ou à la Chine. Mais le montant de ses échanges commerciaux avec le Mali, par exemple, a tout de même été multiplié par 10 depuis 2003. Et Ankara ne semble pas vouloir se contenter d'exercer son soft power au Sahel, puisqu'en juillet 2020, le pays a signé un accord de défense avec le Niger pour l'aider dans son combat contre l'organisation terroriste Boko Haram. En août 2020 également, après le coup d'État qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta au Mali, le ministre des Affaires étrangères turc a été le premier haut responsable étranger à rencontrer les putschistes. Et tout cela a fait couler beaucoup d'encre et alimente l'idée, chez certains à Paris notamment, qu'Ankara pourrait chercher à concurrencer l'influence française au Sahel.
Un petit acteur.
Ou une opportunité d'avoir un dialogue entre Européens et la Turquie sur le futur d'une politique africaine commune.
Mais on l'a entendu, c'est un petit acteur, c'est cet acteur turc sur le continent africain, mais tout de suite, on parle de rivalité, on parle presque de menace. Comment est-ce que vous percevez ça, vous, Bartina Yinanch?
Vous savez, il y avait une dizaine d'années, un Français m'avait demandé, oui, qu'est-ce que la Turquie cherche en Afrique ? Et ma réponse était, tiens, je pense que la Turquie cherche ce que la France cherche en Afrique, j'ai dit. On ne peut pas monopoliser l'Afrique. C'est les Africains qui ont le premier mot à dire avec qui ils veulent travailler. Mais justement, on évoque toujours cette concurrence, la Turquie peut être un partenaire aussi, parce que il y a, est-ce que par exemple la France aurait préféré de coopérer avec la Russie ou la Chine ou la Turquie? Et par exemple, aujourd'hui, il y a un problème entre la France et Mali, parce que Mali va faire entrer les forces Wagner,
Ils sont des forces russes.
Russes. Et qui a opposé les forces Wagner en Afrique, en Libye? Ça a été la Turquie. Où la France, en fait, soutenait Haftar, qui était soutenu par Wagner. Hein. Donc, et la concurrence économique, c'est normal. Hein. Je pense que la France doit être en concurrence avec, je sais pas, l'Italie aussi, avec un autre pays aussi. Donc, justement, il faut pas catégoriser la Turquie comme je ne veux pas dire ennemi, mais comme opposant, comme
menace.
Voilà, comme menace, évidemment. Et en plus, encore une fois, surtout les officiels turcs soulignent le fait que, par exemple, le compagnie TAV, qui est franco-turque, ils ont fait l'aéroport de Tunis, apparemment, qui est un des plus grands aéroports. Donc, il y a des pistes de coopération. Donc, il ne faut pas catégoriser, encore une fois, comme je dis, la Turquie comme une menace.
Et une coopération qui permettrait finalement à l'Europe et aux Turcs d'être plus puissants dans le monde, du coup, Didier Billion ?
C'est une certitude. Il faut bien se pénétrer de l'idée que désormais, la Turquie et sa politique extérieure se déploient à 360 degrés. Votre reportage est excellent parce qu'il montre les progrès quasi exponentiels de la Turquie en Afrique. Mais qui peut les en empêcher ? Au nom de quoi le ferait-on ? Pour l'anecdote, j'ai participé à un débat sur une autre chaîne que la vôtre il y a quelques mois. Et la personne avec laquelle je débattais, et j'étais plutôt opposé, me dit « Mais c'est inacceptable, les Turcs arrivent sur notre précaré. » C'est-à-dire que les Français, ou certains Français, ce n'est pas mon cas, je vous l'assure, ont encore une vision du précaré français en Afrique. Mais nous ne sommes plus dans cette période. Nous sommes dans un nouveau paradigme des relations.
Mais le soupçon existe toujours.
Hein. Je te l'accorde. Mais nous sommes dans un nouveau paradigme des relations internationales. C'est-à-dire que nombre de pays, dont la Turquie entre autres, il y en a bien d'autres encore, désormais ne veulent plus être le petit doigt sur la couture du pantalon devant les ordres des puissances occidentales. C'est un fait. C'est une nouveauté depuis 10 à 15 ans. Et c'est pour moi une très bonne nouvelle. Et donc en Afrique, votre journaliste rappelait 12 ambassades il y a une petite vingtaine d'années. Il y en a 43 aujourd'hui. Mais c'est exceptionnellement important. Ça montre qu'il y a une volonté turque de s'implanter en Afrique. Est-ce que pour autant c'est de l'expansionnisme ? Est-ce que c'est du soi-disant néo-ottomanisme ? Bon, déjà, il n'y a jamais eu d'empire ottoman en Afrique subsaharienne. Mais je ne pense pas du tout. C'est une politique d'influence que veut développer la Turquie, qui elle-même a totalement changé, s'est totalement modifiée au cours de ces 30 dernières années. Donc il y a une logique implacable. Si nous ne comprenons pas cela, bah, c'est dommage pour nous.
C'est en même temps une occasion pour revoir ensemble notre politique africaine.
Ce sera le mot de la fin, Joachim Bitterlich. Merci à tous nos invités. Merci à l'Institut du Bosphore et à son directeur, Bahadir Kaleachi, à Joachim Bitterlich, ancien ambassadeur, à Barçininyan, journaliste, et à Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS et auteur de La Turquie, un partenaire incontournable aux éditions Erol. À la réalisation, Julien Boileau. Le podcast de Carrefour de l'Europe est disponible sur RFI.fr et sur les plateformes d'écoute. À la semaine prochaine.
Carrefour de l'Europe sur RFI. Géopolitique.